l'occasion de la tournée 2010 de la folle histoire des arts de la rue, proposée par Carwan et le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, La Grenouille vous livre 8 versions très subjectives de cette histoire. Aujourd'hui, Nathalie Pernette, qui en préalable nous décrit en 1 minute 30 la trajectoire de la compagnie Pernette.
On a commencé donc, j'ai eu deux vies, une première vie avec Andrea Schmidt jusqu'en 2001, puis une seconde en solo à partir de 2001. On a créé un premier duo, inspiré de l'idée du combat sous toutes ses formes. L'envie était de lancer partout, à toute occasion. Donc nous avons débarqué avec notre ghetto blaster dans les rues de Chalon. Et on faisait la manche, on passait comme ça de la rue à la salle sans aucun problème. Et puis je pense que j'ai associé tout ce bain-là à ce qui me paraît absolument essentiel dans la danse contemporaine, qui est quand même le domaine, ou dans la danse, qui est le domaine des sensations. Et je pense que j'entretiens aussi avec l'ordre et le désordre, certaines envies de chaos, généralement dans les environnements scéniques. Et il n'y a, je crois, aucune pièce qui ne débute ou ne finisse par un énorme bazar. Alors peut-être la première chance que j'ai, comparée à d'autres compagnies, c'est d'aimer les petits formats et les petits groupes. C'est-à-dire, je suis plus une chorégraphe, je dirais, de l'individu que du nombre. Et là, j'ai eu dès 2006 aussi, cette envie de rapprocher un peu l'œil du spectateur. Donc, ce qui nous a amené à sortir les pièces chorégraphiques du rapport frontal et puis de la scène de théâtre. Donc, c'est un retour aux sources progressif vers l'espace public. J'ai essayé justement, dans l'espace public, d'accorder des principes ou des envies chorégraphiques avec des espaces qu'on trouve évidemment dans une ville. Donc, c'est comment on met en résonance avec un monde qui existe, qui est notre monde quotidien. On va dire une part d'ordinaire et une part d'extraordinaire pour décaler tout ça et créer un petit peu d'espace poétique, quoi.
Voici maintenant l'histoire des arts de la rue, selon Nathalie Pernette. Au commencement, il y avait...
Au commencement, nous étions tous nomades, tous saltimbanques, et tous à gagner notre pitance en offrant nos services au Seigneur, divers et variés. au temps des rois, comme diraient les enfants de collège. Moi, je le vois vraiment comme ça, c'est-à-dire que si on remonte vraiment très loin, on remonte aux saltimbanques et voilà, aux gens du voyage que nous étions tous au Moyen-Âge. Je pense qu'après, il y a eu effectivement une sorte de différenciation progressive entre ce qui était définitivement lié à la cour et définitivement nomade. Et puis la danse, parce que moi, mon propos et mes questionnements sont vraiment liés à la danse. J'aurais du mal à en parler de manière générale des arts de la rue. Mais la danse est isolée dans les salles de spectacle et dans la danse de cour. Enfin, ça, c'est aussi tout le bien et le mal que Monsieur Louis XIV a pu nous faire, c'est-à-dire à nous enfermer, je dirais, dans les opéras et dans une forme de convention, quoi. Donc il y a toute une libération, il y a deux libérations successives. Il y a une libération qui a été liée au début du siècle à la naissance de la danse contemporaine, qui a voulu libérer la danse de tout. Des espaces, parce que ça a commencé assez tôt. Les Isadora Duncan ont libéré le corps du danseur, du corset, des pointes. Tout le monde est allé danser nu dans la nature. Et puis, beaucoup plus tard, avec la postmoderne danse américaine, où on a justement cherché à rapprocher la danse et du geste quotidien et des espaces de vie. Donc avec des chorégraphes comme Trisha Brown, comme Steve Paxton, qui ont vraiment, pareil, tenté d'éclater un peu le propos. Et sans oublier la danse hip-hop, qui elle est née dans l'espace public, et qui a une forte puissance de revendication, de révolte, et dont on ne peut pas ne pas tenir compte dans notre histoire contemporaine.
Peut-être les spectacles ou les artistes qui t'ont marqué et qui t'ont donné le désir d'aller vers l'espace public.
Moi, j'ai des grandes... En tant que spectatrice dans les années 80, j'ai eu des grands moments comme ça d'émotions. C'était Cumulus, voilà, La Foura d'Elsbaus aussi. Alors là, ça m'a vraiment, vraiment marqué. Les fameux Nantais, dont j'oublie le nom pourtant, Royal de Luxe, voilà. Les premiers spectacles, le premier spectacle que j'ai vu d'eux, je crois que c'était le premier, c'est-à-dire ce fameux roman photo qui était à la fois à mourir de rire et d'une simplicité tout à fait énorme, quoi. Voilà. Donc ça a été mes grands repères, à la fois des univers très rock, parce que j'étais quand même très très rock, enfin je le suis encore un peu, mais moi j'étais baignée dans le rock industriel allemand, bon, j'avais les cheveux rouges, verts, jaunes, j'étais un peu dans cette énergie-là, et c'était ce mélange de violence et puis d'onirisme qu'il pouvait y avoir dans certains des spectacles, ou justement du Cumulus ou de La Foura, ces créations de monde avec leur langue, leur langage, leur esthétique. Donc ça, je pense que ça m'a vraiment marqué, et ça m'a marqué au-delà de la rue, c'est-à-dire que je pense que ça fait partie aussi des fondements de ma création, même en salle, quoi.
Peut-être là plus spécifiquement sur la danse dans l'espace public, les arts de la rue, on imagine toute une partie visuelle, le théâtre de rue bien sûr, mais la danse dans l'espace public occupe peut-être une position un peu marginale. Je sais que Sylvie Clidière et Alix de Morand viennent de sortir là, il y a quelques temps, un très très beau bouquin extrêmement bien documenté sur la danse dans l'espace public, mais peut-être ton avis à toi, quelques mots sur la manière dont tu perçois cette spécificité.
Comme je le disais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que la danse s'est vraiment refermée, enfin c'est beaucoup enfermée dans les théâtres, et puis elle s'est aussi marginalisée parfois dans des projets très contemporains, qui sont très intéressants, mais qui, je dirais, ne touchent que très peu de monde, finalement, donc des férus d'art contemporain, qu'ils soient art plastique ou danse. Voilà. Donc il y a effectivement une forme de marginalisation, et puis il y a, je dirais tout récemment et heureusement, des compagnies comme Ex Nihilo, enfin c'est quand même assez récent finalement, qui ont essayé de prendre aussi les choses à bras le corps et à vraiment confronter leur travail au plus grand nombre, et à des yeux innocents, je ne sais pas, mais en tout cas de non-connaisseurs. Et donc ça c'est... Enfin, je crois que c'est un petit peu la nouveauté. Et c'est aussi de reconsidérer l'importance que ça peut avoir, l'intérêt que ça peut avoir, et que ce n'est pas, se dégrader que d'aller comme ça dans la rue. Parce qu'il y a une vraie déconsidération, je pense quand même, aussi de la part de certains directeurs de salles ou de certaines institutions, de considérer les choses un petit peu sous forme d'échelle de valeur entre le macadam, le théâtre municipal, puis les grandes scènes nationales de France.
Au fait, là, on parle depuis quelques instants de l'espace public, mais c'est quoi l'espace public ?
Pour moi, c'est tout ce qui n'est pas l'espace de représentation pour lequel le public est convoqué à acheter un billet et conscient de ce qu'il va regarder. Donc l'espace public, c'est aussi bien le guichet de la poste pour moi qu'effectivement le jardin public, que l'arrêt de bus, que voilà. Donc c'est cet espace curieux, l'espace de vie dans lequel effectivement on peut rencontrer des gens qui sont au courant de ce qu'on va y faire, mais on peut aussi en surprendre un certain nombre.
Sur ce milieu des arts de la rue, la grande famille des arts de la rue, on y voit beaucoup de messieurs, pas tellement de dames, et pour le dire en deux mots et un peu raide, c'est des machos.
Je sais pas, c'est peut-être comme c'est un milieu un peu... Enfin, j'ai l'impression qu'on parlait de milieu un peu rock, comme ça, un peu dur. Enfin, c'est un peu rude, hein. Et c'est vrai qu'il faut sortir par sur les temps, les horaires, les terrains. Tout ça est un petit peu, un peu rêche, quoi. Donc, peut-être que c'est un milieu dans lequel les hommes, éventuellement, se retrouvent plus facilement, ou c'est une énergie comme ça plus forte à déployer en un instant. Alors que j'ai l'impression que les filles sont plus endurantes, mais peut-être moins à même de, de déployer une énorme énergie en 10 minutes. Je sais pas, puis encore, je suis pas sûre. Mais moi, j'ai quand même l'impression que tous les milieux sont un peu machos quand même. C'est-à-dire que dès qu'on atteint, ou dès qu'on a envie d'atteindre un certain niveau de responsabilité, des directions de compagnie, il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont chorégraphes hein, dans le milieu de la danse. Et il y a plus de compagnies, je pense, dirigées par des hommes que dirigées par des femmes.
Ce travail dans l'espace public, c'est aussi, j'imagine, pour toi, l'occasion d'aborder une autre relation avec le public ou les publics.
Oui. Donc, comme je le disais, c'était aussi, enfin, c'était à la fois une manière de rapprocher l'œil du spectateur et de confronter dans un espace très réduit deux manières différentes d'être physiquement ou d'être en rapport aux surfaces, enfin, au sol, aux objets et d'être au temps, c'est-à-dire de trouver comme ça une forme de juxtaposition. D'une extrême lenteur avec un rythme normal, un rythme de la vie quotidienne, ou l'inverse, une forte accélération dans quelque chose qui est plus tranquille, a priori. Donc il y a à la fois cette chose-là, et puis il y a parfois aussi cette envie de le prendre à témoin, voire même de l'installer sur une chaise, enfin un fauteuil, et de lui prodiguer un massage en mouvement. Et un massage qui reste dansé. Voilà, donc de lui faire vivre quelque chose, de lui faire partager un événement particulier, quoi. Voilà, donc ça, c'est l'objet de l'insomnie, cette fameuse miniature où une personne dans le public est notre complice, voilà, pendant 10 minutes. Et moi, ce qui m'a aussi beaucoup intéressé, et en même temps, c'est un challenge dans l'espace public, c'était d'avoir des pièces très écrites, voire très virtuose, voire c'est là, je pense que c'est dans la rose où nous allons le plus vite possible. Je crois qu'on n'a jamais été aussi vite, même en salle, alors que c'est plus compliqué, les sols sont plus compliqués, les espaces sont plus compliqués. Mais non, on a voulu aller dans cette espèce d'outrance-là. Donc, en même temps, des pièces très écrites, les posséder à 200% pour laisser quand même une part de hasard possible et composer avec ce hasard. Ce faible hasard, mais qui existe encore, avec lequel on peut jouer.
Pour terminer sur le futur des arts de la rue, les perspectives, comment on le voit évoluer, quelle couleur tu imaginerais pour ce futur des arts de la rue ? Noir, rose, bleu clin ?
Un bleu clin, ce serait pas mal. Bon, déjà vert, on va dire plein d'espoir. Moi, la chose qui me tient à cœur et à corps, je dirais, et vraiment pour laquelle je milite, c'est une espèce de perméabilité des réseaux. Voilà, c'est-à-dire que je trouve que, venant d'une certaine manière, enfin, ayant pratiqué la salle davantage que la rue, depuis maintenant 4 ans, ce qui m'agite, c'est d'arriver à faire en sorte qu'on puisse ensemble, salle et rue, coproduire des pièces, que les théâtres s'ouvrent justement à des formes différentes de représentation, et donc osent sortir de leur théâtre, et puis que, mais ça c'est déjà le cas, hein, que les organismes de rue acceptent justement cette espèce de coproduction avec un autre milieu. Voilà, ceci pour que les moyens de production soient plus importants. Le temps de travail soit plus important. Et puis donc, je pense qu'aussi, globalement, la qualité des œuvres et leur finition et tout ça, ça ne pourrait que s'améliorer, que grandir. Voilà. Et puis, voilà, qu'il y ait une vraie perméabilité, quoi, dans ce champ-là.
Merci beaucoup, Nathalie Pernette. Retrouvez l'histoire des arts de la rue tous les samedis et dimanches de mai à 10h sur les 3-8. La folle histoire des arts de la rue est en tournée du 6 avril au 24 mai 2010. Retrouvez tous les spectacles et les rendez-vous sur le site de Carouane, www.carouane.info.